Méditation biblique. Au micro, Jacques Marchal.
Le Seigneur m'aime, par la sacrée, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours le Seigneur m'aime, il est amour.
Chers auditeurs, bonjour. Se dire simplement, je crois qu'il existe quelqu'un ou quelque chose qui domine l'univers et qui peut porter un nom quelconque ne conduit pas loin. Nombre de choses dépendent, en fait, du Dieu auquel nous croyons. Il existe de par le monde un grand nombre de religions, de sectes, d'églises, et il faut bien admettre que très souvent, il vaudrait mieux ne pas avoir de religion du tout que d'en avoir une mauvaise. Les hommes, en effet, ont toujours tendance à ressembler au Dieu auquel ils croient. S'il s'agit d'un Dieu dur, cruel, injuste, il y a de fortes chances pour qu'il soit ou devienne même aussi mauvais que lui. Presque tous les êtres humains croient en quelque espèce de Dieu, et cela malgré le fait que l'on a pensé pendant très longtemps qu'il existait des peuples sans Dieu. Pourtant, au fur et à mesure que notre planète était explorée, on s'apercevait qu'il n'en était rien. Toutes les peuplades primitives des forêts d'Afrique, des montagnes de Malaisie ou des déserts d'Australie croyaient en un ou plusieurs dieux, et le culte qu'ils rendaient à leur divinité tenait une grande place dans leur vie. Il est un fait certain. Il n'est pas facile de vivre sans Dieu. Le bouddhisme était, par exemple, à l'origine dépourvu de divinité. Bouddha avait promis de libérer l'homme par la connaissance parfaite. Mais pour les hommes, cela ne suffisait pas, car ils éprouvaient un profond besoin d'adorer. Des dieux furent donc introduits dans cette religion qui en faisait à l'origine abstraction. Ça nous prouve pour le moins que l'homme possède au plus profond de lui-même l'idée, le besoin de Dieu. N'est-ce pas là une des choses qui différencie l'homme de l'animal? L'être humain, par certains côtés de sa nature, n'est au fond qu'un animal, mais lui est capable de se mettre en communication avec son Dieu, alors que l'animal en est incapable. L'homme prie, supplie, exprime ses pensées et ses aspirations à Dieu. C'est une chose merveilleuse qui lui a été donné par l'homme, contrairement à tous les êtres vivants, a été créé à l'image de Dieu. Le sens du premier enseignement donné sur l'homme dans la Bible nous le prouve. Dieu dit, en Genèse chapitre 1 et verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Cela ne veut pas dire, bien sûr, que Dieu a un corps comme l'homme, mais plutôt que ce dernier a été créé à la ressemblance spirituelle de Dieu. C'est précisément pour cela que l'être humain est fait pour vivre en communion avec son Créateur. Hélas, certains hommes ne font pas usage de la faculté qu'ils ont pourtant en eux de prier leur Dieu, de communiquer avec lui directement par la pensée. C'est là faire abandon d'une merveilleuse aptitude que nous possédons tous. D'autres, par contre, prient. Mais quel Dieu prient-ils? La plupart des hommes adorent, mais quel Dieu adorent-ils? En quelle espèce de Dieu croient-ils? Les hommes ont souvent la fâcheuse tendance de créer dans leur esprit un Dieu qui corresponde au désir de leur cœur, et ce Dieu est par conséquent nécessairement faux. Ce n'est souvent qu'une simple idole, tantôt immatérielle, tantôt personnifiée par des traits humains. Dès que ce Dieu-là est mis en présence du vrai Dieu, du Dieu de la Bible, alors l'idole s'efface pour faire place à une réalité autrement belle. Et c'est alors le départ vers des découvertes merveilleuses et sans fin. Le Dieu véritable peut tout d'abord être aimé. Le premier commandement divin ne nous dit-il pas en effet, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Par conséquent, si la Bible nous dit d'aimer notre Dieu, cela prouve que ce Dieu peut être aimé par des créatures comme nous et que nous avons donc également été créés capables d'aimer Dieu. Il aime les hommes, et ceux-ci peuvent l'aimer en retour. Cet axiome est le centre même de la foi chrétienne. De nombreuses races vivent encore de nos jours au niveau de l'animisme, c'est-à-dire dans une croyance à des esprits divins personnifiée par les arbres, les rivières, les montagnes, bref, les forces de la nature. Cette religion est basée sur une crainte foncière et il n'existe en elle aucune place pour de l'amour. Les épicuriens que l'apôtre Paul rencontra à Athènes ne niaient nullement l'existence de certaines divinités. Ils pensaient toutefois qu'elles vivaient très loin d'eux et ne souciaient en fait jamais des hommes. Encore une fois, nous avons affaire à des croyances fondées uniquement sur la peur. Crainte d'irriter les divinités, peur de leur déplaire. Toute la mythologie n'est-elle pas d'ailleurs basée sur les mêmes principes? Le Coran, que suivent pourtant des millions d'êtres humains, ne dit jamais que Dieu aime l'homme et il n'exige pas que les hommes l'aiment. Dieu est au contraire présenté comme un personnage terrible et très fort. Le chrétien, au contraire, est un être qui doit se sentir aimé par son Dieu. Et la Bible tout entière démontre largement ce principe fondamental. Le christianisme est véritablement basé sur l'amour, mais un amour réciproque, partagé, et non pas à sens unique. On dira évidemment, qu'entendez-vous par aimer Dieu? Il est certain que très souvent, on présente Dieu comme étant quelqu'un qui, du haut de sa grandeur, veut nous contraindre à faire telle ou telle chose. Il guetterait l'homme, mais il serait prêt à fondre sur quiconque ne le respecterait pas. On pense que c'est pour cette raison que nous sommes obligés d'aimer. Mais cette conception est absolument fausse et rejoindrait même alors la mythologie. Par contre, le considérer comme bon à un point tel qu'il finirait tout de même par nous pardonner, même si nous ne faisons pas sa volonté, est tombé bien sûr dans l'excès contraire. Un amour qui ne se manifeste pas par une obéissance librement consentie n'est pas un amour véritable. On obéit parce qu'on aime, comme des enfants vis-à-vis de leurs parents, mais on n'aime pas tout simplement parce que l'on veut obéir à un ordre. C'est là que réside la nuance. Certaines personnes ont très difficile de devenir des disciples de Jésus-Christ, parce que précisément elles ne veulent voir le Dieu qui est révélé dans la Bible qu'à la seule lueur de leur propre conception. C'est un peu comme prétendre prendre deux photos sur une même et seule pellicule et s'étonner ensuite de n'obtenir qu'une image floue, imprécise. Ces fausses idées font la plupart du temps abstraction du facteur amour, qui est pourtant primordial de concevoir si l'on veut comprendre qui est le Dieu des chrétiens. Cet amour, c'est avec notre force, notre volonté, notre pensée que nous l'avons. Et ce n'est pas une simple question de sentiment. Aimer Dieu, c'est véritablement le voir au travers de ce qu'il a manifesté envers nous. L'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il dit encore d'ailleurs un peu plus loin, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et la Bible affirme encore, « Personne n'a jamais vu Dieu. » Et malgré tout ce que nous pourrions apprendre par elle à son sujet, nous découvrirons toujours qu'il y a quantité de choses que nous ne comprenons pas. Nos esprits sont, je pense, trop petits pour y enfermer Dieu. Saint-Exupéry n'a-t-il d'ailleurs pas dit dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Jésus pourtant soulève une partie du voile qui nous cache la nature de Dieu. Un jour, il dit à ses apôtres réunis autour de lui, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais apparemment, les apôtres ne connaissent pas cette pensée, ne comprennent pas cette pensée qui est pourtant claire. Et c'est Philippe qui lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Ce à quoi Jésus, étonné, rétorque, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» De nos jours, beaucoup de gens sont comme Philippe, hélas, et se disent, « Si seulement je pouvais être certain, si seulement ces choses-là pouvaient être démontrées. » À cela, je réponds, vous ne pourrez jamais démontrer Dieu comme l'algèbre ou la géométrie. C'est une chose impossible. Jésus, en répondant à Philippe, le met pourtant sur la seule voie concrète possible. Tout ce que l'homme a besoin de connaître sur son Père est là, présent, visible en lui-même. N'est-il pas l'exemple tangible de cet amour dont nous parlions il y a un instant? L'Évangile ne dit-il pas que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle? Ceux qui veulent comprendre la nature de Dieu doivent donc par partir absolument de Jésus-Christ, ils doivent se pencher et étudier ce qu'il a dit, fait, été. Pour cela, ils doivent ouvrir la Bible et lire ce que ses disciples ont dit de ses enseignements. C'est là que se trouve la clé de la vraie connaissance de Dieu. Dans la volonté de ce Dieu qu'on doit scruter se trouve la réponse à la plupart des questions qu'on peut se poser sur ce sujet. Avant tout, pourtant, il est peut-être utile de se poser sincèrement la question « Est-ce que je veux vraiment connaître Dieu ? Est-ce que je cherche vraiment avec le désir de le trouver ?» Aux Indes, un jeune homme s'approcha un jour d'un vieux sage assis au bord d'une rivière et lui demanda de lui dire comment il pourrait trouver Dieu. Le vieillard lui saisit alors la tête et la maintint sous l'eau pendant un long moment. Et le jeune homme, enfin libéré et à moitié suffoquant, s'écria « Mais pourquoi avez-vous fait cela ?» Et le vieux sage lui répondit avec douceur « Quand tu auras besoin de Dieu, autant que tu avais besoin d'air, tu le trouveras. » Oui, il faut chercher Dieu et s'écrier comme David dans le psaume 63 au verset 1 « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi comme une terre aride, desséchée, sans eau. » Il ne faut par contre pas faire ce que Job décrit si bien dans le livre de Job au chapitre 35, au verset 9 et 10. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit « Où est Dieu, mon Créateur ?» Celui qui cherche Dieu peut être certain de le trouver, car Dieu ira même au-devant de lui. Le psaume 145, verset 18 dit « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. » De tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Bien sûr, nous devons nous dire que rien, sans une parcelle de foi, ne peut être démontré dans le domaine spirituel. Ai-je contribué un peu dans la limite de mes possibilités à jeter une petite lueur sur le sujet? C'est mon plus cher désir. Venez d'entendre une émission de méditation biblique au micro Jacques Marchal. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre. Je vous répondrai personnellement, je vous le promets. Je puis également vous envoyer le texte intégral de cette causerie. Gratuitement en tant que nous n'avons absolument rien à vendre. Mais qui sommes-nous? Des chrétiens qui ne portent pas d'autre nom et ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi et surtout de pratique est le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seuls ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle n'enseigne pas. Écrivez à Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Palma. Je répète, Jacques Marchal, 6 rue Étienne Falconet, 31130 Balma. Au revoir, que le Seigneur vous garde et à lundi prochain, 9h. Le Seigneur même, il est amour. Je retirerai toujours le Seigneur même.